France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Christophe Castaner appelle ses différents services à une vigilance renforcée pour ces prochains jours. Le ministre de l'Intérieur note en effet un risque d'acte de vengeance après la mort d'Aboubakar al-Baghdadi. C'est le président américain qui l'annonçait hier. Le chef du groupe État islamique Aboubakar al-Baghdadi, terroriste le plus recherché au monde, a été tué dans une opération militaire américaine en Syrie. Cette mort est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape, répond le président français Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de second tour à la présidentielle en Argentine. Le candidat de centre-gauche Alberto Fernandez remporte le scrutin selon les premiers résultats ce matin. Le péroniste devance largement le président sortant Mauricio Macri qui concède lui déjà sa défaite. C'était cette fois les opposants à l'indépendance catalane qui étaient mobilisés. Hier à Barcelone, près de 80 000 personnes ont défilé dans la ville, brandissant des drapeaux espagnols. Une réponse aux récentes manifestations des indépendantistes. Eux étaient encore 350 000 samedi dans les rues de la capitale catalane. Emmanuel Macron recevra ce matin les membres du Conseil français du culte musulman. Il doit évoquer avec eux à l'Élysée les questions de laïcité et de communautarisme. Interrogé par nos confrères de RTL, le président français promet ce matin des mesures à ce propos d'ici la fin de l'année. Une réponse, dit-il, au débat qui divise jusqu'au sein de la majorité. Demain, le Sénat d'ailleurs doit analyser une proposition de loi du parti Les Républicains. Proposition de loi qui vise à interdire le port de signes religieux aux parents accompagnant des sorties scolaires. Notons enfin qu'un TGV sur trois circulera seulement aujourd'hui sur l'axe atlantique. Les agents de maintenance en banlieue parisienne poursuivent leur mouvement de grève entamé il y a une semaine maintenant.
Recueilli, élevé par des loups dans la jungle indienne, Mowgli sur France Culture dans le feuilleton, dans la voix de Jacques Gamblin.
Il entendit la plainte dure et chantante d'un tigre qui n'a rien pris et auquel il importe peu que toute la jungle le sache. C'était Shere Khan.
Ode à la différence, une profonde réflexion sur l'humanité qui a l'inventivité, l'humour, la force de s'adresser à tous. Les aventures de Mowgli, de Joseph Rudyard Kipling, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Difficulté à mettre en œuvre les réacteurs nucléaires de la troisième génération. Débat sur la neutralité carbone, réticence à remettre en cause un modèle présenté pendant 40 ans comme celui qui a préservé l'indépendance énergétique de la France. Le temps du débat se demande ce que signifie aujourd'hui le nucléaire à tout prix.
Le temps du débat, ce lundi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Et sur l'antenne à 6h03 sur France Culture ce matin, la littérature est à l'honneur chez Toufik Hakem, c'est le réveil culturel.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation et ce matin à la prise de son, Manu Couturier. Tous les lundis, c'est l'actualité littéraire et aujourd'hui, je reçois Paul Besson pour Paris-Saint-Denis, titre de son premier roman paru chez La Thèse. À défaut de pouvoir se loger avec sa copine dans Paris intramuros, Paul Besson, à l'aube de ses 30 ans, s'installe dans une banlieue porte de Paris, Saint-Denis, la capitale du département le plus sinistré de France. Entre le journal intime et le reportage in situ, Paul Besson décrit son quotidien dans, ouvrez les guillemets, la ville la plus dangereuse de France.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Et on va laisser tomber les guillemets à la fin de cette émission, de cet entretien, j'espère. Bonjour Paul Besson.
Bonjour.
Paris-Saint-Denis, donc c'est le titre de votre livre, de votre roman édité chez La Thèse. C'est très romanesque, mais ce n'est pas tout à fait un roman, on peut le dire. Hein. C'est plutôt un récit, presque un journal. Vous racontez donc votre vie de bohème à la recherche d'un appartement et votre installation à Saint-Denis, votre intégration dans cette ville de pauvres où quelques bobos, pour des raisons économiques ou autres, viennent s'installer de plus en plus. C'est bien ça?
C'est ça, ouais.
Et vous, pour quelle raison vous êtes...
Bah, pour des raisons économiques, au départ. On a un peu atterri à Saint-Denis avec ma copine de l'époque qui est dans le livre.
Et, c'est déjà fini.
C'est déjà fini. Ouais. Enfin, ça a duré 4 ans quand même. Mais là, c'est fini. Ouais. Non, on est arrivé là par des raisons purement économiques. Et c'est vrai qu'au début, moi, à part pour aller à la fête de l'Humain ou quoi, j'étais jamais venu en fait à Saint-Denis particulièrement. Et donc, au début, je me faisais tout un tas de fantasmes en fait, comme la plupart des gens. Et très rapidement, en fait, j'ai compris que j'existais pas. Enfin, que j'existais pas. C'est pas le mot. Mais que je détonnais pas plus que ça dans le paysage en fait. Et au début, c'était un peu ça qui me faisait peur, c'était l'idée d'être le seul blanc de Saint-Denis.
Alors, le seul tout bas pour reprendre Valde.
Alors déjà, c'est pas le cas. Et puis en plus, tout le monde s'en fout en fait dans la vraie vie là-bas, en tout cas. Et donc très rapidement, j'ai découvert une ville que j'adorais en fait, presque en tout point. C'est-à-dire que j'ai adoré les gens qui étaient là-bas, j'ai adoré la forme de la ville, qui est vraiment protéiforme. Il y a énormément de styles d'architecture différents, il y a énormément de cultures différentes et ça se voit.
Vous racontez l'histoire et la géographie de Saint-Denis. Et vous le racontez très bien. Vous avez un bon style, mais surtout, Paul Besson, je pense que si j'ai adoré votre livre « Paris-Saint-Denis », c'est parce qu'on retrouve tous ces thèmes sociétaux qui hystérisent les médias en ce moment. Et là, vous les racontez d'une manière sereine, avec votre point de vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Non, bien sûr, il y a tous les problèmes du monde qui se concentrent à Saint-Denis, mais il n'y a pas que ça. Et puis surtout, vous racontez des expériences humaines.
Oui. C'est parce que c'est ça qui m'a le plus marqué dans la ville dans la ville où j'ai vécu, quoi. C'est que il y a effectivement des communautés à Saint-Denis, mais il y a surtout des gens, quoi, des gens qui sont de fait assez fragiles, si on reste sur les thèmes sociétaux. Ils sont fragiles économiquement, ils sont fragiles culturellement aussi par rapport à la culture dominante qu'il y a en France, et ils sont un peu invisibles aussi. Surtout ceux que j'ai croisés la nuit, ils ont ce côté un peu invisible et magnifique à la fois en fait. Et je sais pas, j'ai parlé des gens qui m'avaient fait quelque chose en fait, parce que j'ai croisé beaucoup de gens. J'ai pas raconté toutes mes aventures nocturnes.
C'est très nocturne effectivement. Vous avez un rapport à la nuit qui est très très étrange, comme si c'était le seul moment où vous pouvez discuter avec l'autre. Vous savez, l'autre avec un grand A.
Personnellement, je suis plutôt quelqu'un de la nuit. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à me coucher tôt, beaucoup de mal à me lever tôt, et j'écris mieux la nuit. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas, enfin c'est plus facile.
Quand vous avez toutes les capacités pour écrire, hein, ce qui est pas souvent le cas, si j'ai bien compris, parce que vous racontez un peu.
C'est le cas pendant une heure ou deux, et puis après ça se dégrade quand même.
Voilà, vous prenez quelques substances, disons, et au niveau de l'alcool, vous y allez aussi. Hein.
Mais la nuit, il y a quelque chose aussi de... On sort un peu de la civilisation. La civilisation, c'est pour la journée, quoi. La nuit, les gens sont plus eux-mêmes, quoi. Il y a moins de gens qui les regardent, on les voit moins bien. J'ai pu avoir des conversations très libres, en fait, avec les gens de Saint-Denis la nuit.
Et vous les décrivez très bien. Vous décrivez des individus. Vous décrivez aussi des personnes. Par exemple, puisque c'est votre premier roman, Paul Besson, je voudrais vous proposer de lire cet extrait qui m'a particulièrement touché. On y va ?
On y va.
Allez, un extrait de Paris-Saint-Denis par l'auteur lui-même, Paul Besson.
J'entrais dans le Franprix qui fait face à la gare. Devant celui-ci se tiennent en permanence des grappes d'hommes désœuvrés. Ils boivent de la bière, fument des cigarettes et plaisantent entre eux. Ils n'embêtent pas les filles, ils se tiennent bien. Ils enlaidissent un peu le paysage quand même et ils jettent leurs ordures par terre. C'est chiant, mais on est loin de l'ambiance de crime et de terreur dépeinte par les médias. Les étals de supermarchés en disent beaucoup sur une ville. En témoigne l'étonnant mélange de produits halal et orientaux qui forment l'écrasante majorité de l'offre alimentaire et de quelques jus et boissons à la mode enrichis en vitamines, en graines de lin ou en électrolytes. Les bonbons halal de la marque Samia sont excellents, il faut le savoir. Mais ce jour-là, je pris un smoothie enrichi en vitamines avec du guarana et des graines de lin, confirmant ainsi les réflexes de classe auxquels nous sommes tous soumis. J'attendais mon tour dans la file d'attente quand une petite femme ridée et voilée s'avança vers la caisse avec un paquet de fruits secs à la main et un grand sourire au visage. Elle avisa la jeune caissière, rebeu jolie d'une vingtaine d'années, et lui posa une question en arabe. Le regard de la jeune fille s'éteint, et avec une voix empreinte de honte et d'hostilité, elle lui répondit « Je suis désolée, je ne parle pas arabe ». La vieille bonne femme ressemblait à Yubaba dans Le Voyage de Chihiro. Elle n'en prit pas ombrage et partit en piaillant joyeusement, la laissant avec un regard clairement bienveillant. Mais la honte de cette jeune fille persistait. Elle gardait les yeux baissés et semblait triste. « Caissière arabe à Saint-Denis, tu n'es pas française. Les gens ne te voient pas comme une vraie française. » Mais elle n'appartenait pas non plus à sa communauté. Elle n'était personne. Et cela semblait peser lourd sur ses jeunes épaules. Elle avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Sans doute que le sentiment d'être coupée de ses origines par la barrière du langage la travaillait. J'aurais voulu la réconforter, mais que connaissais-je de sa vie? Qu'aurais pu-je lui dire qui l'aurait soulagée? Rien.
Un extrait de Paris-Saint-Denis de Paul Besson, édité chez Lattès, extrait lu par l'auteur. Phénoménal, freestyle, du visage pâle. Le partout est de retour à Artou. C'est parti, ça vient de Saint-Né. Direct, issu de la génération fort et taquiné. Pas de soucis, mais pas de chiffre ici. Pas de chichi, si tu diras pour toucher le sud. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde, sont édictés pour A. Mais c'est comme ça qu'on est tout le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Et puis, s'imbibe de nous, rêve de voir en dessous. Ne t'approche pas au land de fond, te fous des cons. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec, du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip hop qu'avec des samples de pop. Mec, tout cela, je les stoppe à base de pop, 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 pop. C'est sinister. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. Ça a changé depuis la Seine-Saint-Denis, depuis ce morceau d'LTM, Paul Besson. Alors, oui. Ça a changé comment?
Bah, j'y étais pas, moi, au morceau d'LTM, mais...
Bah oui, c'est vrai, vous êtes jeune, hein. Ça ouais. Va. Vous avez quel âge, d'ailleurs? Vous
J'ai 32 ans.
Ouais.
Bah, en tout cas, quand moi, je suis arrivé, Saint-Denis, ça s'embourgeoisait pas mal. Enfin, ça s'embourgeoisait. Ça se dépaupérisait. Il y avait beaucoup d'immeubles qui étaient abattus et des chantiers qui se faisaient à la place de ces immeubles. Et moi, en plus, j'étais dans la partie de Paris où il y a un peu des zones commerciales et industrielles. Donc, du coup, il y avait beaucoup de travailleurs qui allaient et venaient. Et il y avait, bah, voilà, beaucoup d'actions de ce côté-là. Mais effectivement, ouais, quand je suis arrivé, ça commençait à s'embourgeoiser. Ouais,
comment vous étiez vu en arrivant? Parce que ça semblait être une préoccupation au début de votre installation et vous vous êtes rendu compte très vite que personne ne faisait attention à vous.
Personne ne me voyait particulièrement. Ouais. Non mais avant c'était des fantasmes dans ma tête en fait, que j'avais, qu'on a tous des situations qu'on connaît pas où on se dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et puis en fait on arrive et rien ne se passe comme prévu et souvent c'est mieux. Bah là c'était le cas en fait, c'est-à-dire que j'avais pas non plus des attentes, je me disais pas que j'allais me faire attaquer dans la rue, hein, loin de là, mais oui, je pensais qu'on allait me repérer, mais pas du tout, pas du tout, du tout. Ça s'est évaporé tout de suite, en fait.
Ça a duré combien de temps, cette expérience à Saint-Denis?
On y a vécu quasiment un an. J'y ai vécu quasiment un an, et puis en fait, après, on est parti parce que...
Il est tellement bien votre texte que je me pose la question, est-ce que vous êtes installé à Saint-Denis pour écrire le livre?
Non. Non, j'ai commencé à l'écrire... parce que la ville me plaisait, quoi, parce que les gens me plaisaient, parce que il y avait quelque chose de très poétique en fait. Et...
Dans l'histoire de Saint-Denis, dans la ville, c'est la ville des rois et en même temps aujourd'hui la ville des pauvres.
C'est plutôt dans la vie quotidienne que j'ai vu une poésie. Du coup, c'est plutôt du côté pauvre de Saint-Denis qui avait, je trouvais, une poésie. Il y avait quelque chose de très doux en fait dans les gens, dans leur attitude, dans leur manière d'être les uns envers les autres Et il y avait un sentiment très fort d'appartenance à la communauté de Saint-Denis.
Si les communautés ne se mélangent pas trop entre elles.
Les communautés ne se mélangent pas de fou,
De fou?
Pardon.
Ça y est, vous parlez Saint-Denis style.
Les ne se mélangent pas énormément. Mm-hmm. Jusqu'au lycée, quoi. Et puis après, je sais pas pourquoi, les communautés finissent par se remettre entre elles. Mais après, c'est...
Vous êtes fait des amis?
Je ne suis pas fait des amis, non. Je me suis pas vraiment fait des amis avec qui j'ai gardé contact.
Ouais. Vous êtes fait plein d'amis d'une nuit.
Ouais, je me suis fait des amis, je me suis fait des amigos, du coup.
Ouais.
des amis d'un soir. Ouais. Je pense que j'en ai eu pas mal.
Paul Besson, vous êtes le fils d'un écrivain.
Oui.
Qui est donc Patrick Besson. Et vous dites, ma mère est professeure de français, mon père est écrivain. Tout petit, ma mère mettait des disques de Mozart et de Brassens. J'ai grandi avec. Je passais des après-midi chez mon père et repartais avec des piles de DVD et de livres. En somme, je baigne dans la culture depuis la naissance, comme un privilégié inné. J'ai quitté la bourgeoisie matérielle, mais la bourgeoisie intellectuelle, j'en ferai toujours partie, c'est comme ça.
C'est comme ça, ouais. Quand je dis bourgeoisie intellectuelle, j'entends en fait la culture qui arrive gratuitement dès qu'on est gamin. C'est ça que j'entends. Et j'entends pas une posture politique vraiment, du tout même. Donc voilà, c'est ça que j'entends quand j'entends la bourgeoisie intellectuelle. Et ça oui, j'en ferai toujours partie, parce que j'ai reçu une formation culturelle qui est réservée, de fait, le plus souvent à la bourgeoisie, ou au moins aux classes moyennes, quoi.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Paul Besson ?
Eh ben le dernier boulot que j'ai fait, c'était agent d'accueil, pendant 6 mois à peu près, et puis après j'ai été au chômage, et puis...
Vous avez même été animateur dans des supermarchés ?
Ouais, j'ai vendu de la bière et du vin dans les foires au vin, dans les supermarchés.
Vous racontez comment on fait ce genre d'animation à Saint-Denis, alors que la population est musulmane, pour vendre du vin et tout ça, on se dit... Ça va pas être possible, il va se passer quelque chose. Et pourtant, tout se passe plutôt bien, c'est plutôt bon enfant.
Oui, très bien. Ouais. En fait, j'ai été vendre de la bière à Saint-Ouen. En plein mois du ramadan en plus. Alors du coup, tout le monde était épuisé, il faisait très chaud.
Ouais.
Et du coup, moi je criais. Les bières avaient des noms un peu grivois. Il y avait une bière qui s'appelait la Quéquette, l'autre la Levrette et la Fessée. Alors, du coup, je criais comme ça dans le magasin. Eh, la Levrette et la Quéquette, parce que c'est à la criée un peu la grande distribution. Ouais. C'est vraiment un milieu à part. Tout ça pendant le ramadan. Et donc du coup.
Et les gens riaient plutôt.
Ouais, les gens ça les faisait marrer plutôt. Ouais. Ouais. Il y en avait deux trois. Ça leur plaisait pas du tout, mais ils sont jamais. Enfin, personne n'est venu m'emmerder, quoi. Mais les gens dans la vraie vie, ils viennent pas vous emmerder, même s'ils sont pas d'accord avec vous la plupart du temps. Mais effectivement, la plupart des gens que j'ai croisés et qui ont interagi, ça les faisait plutôt rigoler. Ouais.
Attention, vous allez être accusé d'angélisme, Paul Besson.
Ah bah écoutez.
Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que effectivement, vous avez une empathie. On peut pas le nier. Vous les aimez, ces gens que vous rencontrez la nuit ou la journée, que ce soit dans un kebab ou dans un supermarché. Vous avez tout de suite deviné que dans les supermarchés, c'était là où on voyait vraiment la pauvreté des gens de Saint-Denis. Il y a quelques pages vraiment poignantes. C'est presque un travail journalistique, même si vous parlez de vous, de votre intimité, de votre couple dans ce roman Paris et Saint-Denis, il n'y a jamais de propos politiques et pourtant ce roman, on peut le considérer comme un roman politique, hein,
on peut. Pour l'angélisme, c'est assez voulu à vrai dire. J'avais assez rapidement dans l'écriture, je me suis rendu compte que ça marchait mieux si j'arrivais un peu comme un Candide et que je regardais ce que je voyais que je décrivais ce que je voyais avec bienveillance et curiosité. Et de maintenir, si vous voulez, uniquement ces deux sentiments-là pour filtrer l'écriture. Mmh. Et ça marchait mieux. Je trouvais que c'était plus beau ce que j'écrivais comme
ça. D'autant plus que ça ne vous empêchait pas de parler de la misère, de la prostitution, de la drogue et du communautarisme.
Oui, parce que quand on arrive avec des yeux un peu, justement, candides et expressément naïfs, on peut se permettre de parler de tout, puisqu'on porte pas de jugement moral sur ce qu'on voit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant l'écriture. C'est-à-dire que même les moments un peu sensibles, où je parle de prostitution, où je parle de drogue, où je parle de communautarisme, et je parle jamais vraiment de communautarisme tel qu'on peut l'entendre dans les médias, en fait. Je parle jamais de méchant communautarisme. Mais on peut regarder des phénomènes si on les juge pas, en fait, et on peut les décrire. Et ça m'a suffi pour... Donc, pour l'angélisme... Voilà ce que j'aurais à dire. Et
pour le caractère politique.
Et pour le caractère politique, ouais, effectivement, c'est-à-dire que il y a quand même une réalité assez crue, quoi, que j'essaye de montrer. Et il y a une forme, enfin, je le dis jamais en ces mots-là, mais il y a une forme effectivement d'injustice entre la qualité humaine des gens que je croise et la situation dans laquelle ils sont. Et en ce sens-là, ouais, le livre est plutôt assez politique même, très politique.
Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur, mais j'ai fait les choses à ma couleur,
seul ou mal accompagné. J'ai commencé plus bactère, super Walter. Juste un revolver, quelques poises et haltères. À cause des préjugés, pense à tout ce que t'as raté. Malgré tes diplômes, personne ne t'a jamais rappelé. J'ai dû me faire seul tour, suivre mon mec tout. Pour avoir les mêmes chances que les autres, j'ai dû faire le doux. Ronce du bitume, je ne fane pas. Quand j'y vais dur, je ne blague pas. Je n'ai pas atteint mon but, je ne traque pas. Ne bouge pas, ne craque pas, ne doute pas, ne parle pas, ne plie pas, ne part pas, ne lâche pas.
Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. Mais j'ai fait les choses à ma couleur, négro dealer, dealer. Mais j'ai fait les choses à ma couleur, négro dealer, dealer. J'aime quand la pluie commence à tomber.
Qu'elle sous les semelles, pas d'arrachage de sac, car je ne m'attaque pas aux femelles. Bisous sur la bouche avec la langue dès la maternelle. Élevé par une lionne, pas eu besoin d'un paternel. Moins j'avais d'oseille, plus j'étais dangereux et cruel. Sang sur les chicots, reflets violets dans les prunelles. J'ai été bon, j'ai été mauvais. Violence urbaine, j'ai toujours payé ce que je devais. Pour l'instant, je suis dans le son, pour la suite, on verra. Des fois, le peurage, j'en ai ras la new era. RDC, j'fais mes dièses propres. Jamais la tête baissée pour ceux qui connaissent Cop, Back and City.
Jugé à cause de ma couleur, j'ai fait les choses dans la douleur. Mais j'ai fait les choses à ma couleur, négro dealer, dealer.
Booba sur France Culture, normal puisque vous le citez, Paul Besson, dans votre premier roman Paris et Saint-Denis. Oui. Pourquoi ?
Je le mets en exergue.
Deux fois.
Deux fois, ouais. Au début, il n'y en avait qu'une. Et puis après, je réécoutais tout ce qu'on aime. Et du coup, ce moment-là où il dit les gens parlent d'amour, moi je te parle de ce que je connais, les rues de ma ville. Je trouvais que ça allait bien. Alors on en a rajouté une deuxième. Booba, j'écoute ça depuis très longtemps. Et je considère très sérieusement que c'est le.
Avant votre parenthèse à Saint-Denis, avant cette année
bien
passée,
avant, ouais, ouais. Bien avant. J'ai commencé à l'écouter quand j'étais au collège. C'est à l'époque c'était Lunatic.
Avec Ali, d'accord.
Ouais. Et j'ai continué à l'écouter jusqu'à aujourd'hui où je l'écoute encore. Et pour moi, ouais, c'est un des. Enfin, c'est au niveau du hip-hop, en tout cas, c'est le plus grand depuis ces 20 dernières années.
Alors pourquoi ? Parce qu'il raconte ce que vous avez, par exemple, vécu vous-même à Saint-Denis, Paul Besson ?
Non, pas vraiment. Je vois pas tellement de proximité artistique entre ce que je fais et ce que lui fait. Encore heureux. Mais il y a quelque chose dans ce qu'il fait, dans son œuvre à lui, qui... Enfin, énormément de choses que je trouve remarquables, cette espèce d'honnêteté qu'il a avec lui-même. Il y a peut-être d'ailleurs un rapport avec ça, justement, parce qu'il fait, dans ce qu'il écrit en tout cas, dans ses chansons, il est jamais dans la fuite de ce qu'il ressent. S'il est en colère, il va le dire. S'il est triste, il va le dire. S'il est heureux, il va le dire aussi. Et il y a une honnêteté incroyable chez lui, un sens de la sonorité et de l'épaisseur du mot que je trouve incroyable. Quand il déforme des mots pour aller avec sa propre métrique à lui, je trouve ça super aussi. Et c'est aussi très très politique, Booba. Et je trouve ça admirable, en fait, comme il arrive justement à être très politique tout en ayant l'air d'être anti-politique. C'est un truc que j'admire énormément chez lui. Et globalement, enfin en général, sa carrière, sa stature, enfin j'aime beaucoup Booba. Mais...
Pourquoi vous avez écrit ce premier roman ? Enfin, pourquoi avoir commencé par ce voyage à Saint-Denis, cette expérience à Saint-Denis pour vous lancer dans l'écriture de romans Paul Besson?
Au départ, je voulais écrire un journal pour garder une trace de tout ce que je voyais. Et l'écriture allant, j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir à écrire, ça s'est fait de plus en plus vite. Et à la fin, en fait, au bout de quelques mois, j'avais l'impression d'avoir un manuscrit, quoi. Donc je l'ai tapé, on l'a envoyé, et puis à ce moment-là, en fait, ça s'est fait un peu naturellement. Je pensais pas écrire un livre jusqu'à à la fin où j'avais un livre. Je sais pas, c'est même pas vraiment un choix, en fait. C'est plutôt Saint-Denis qui a choisi que moi qui ai choisi d'écrire sur Saint-Denis, en fait.
Comment on ressort de cette expérience ? Quand je dis expérience, c'est le mot exact. Parce que franchement, vous êtes arrivé à Saint-Denis parce qu'il n'y avait pas de logement ailleurs.
Hein. Ouais. C'était. Au début. D'ailleurs, au tout début, j'avais vraiment l'impression d'une défaite sociale, quoi. J'arrivais à Saint-Denis, ça y est, c'était le début de la chute. Puis bah pas du tout, en fait. Encore un truc des fantasmes qu'on se fait avant de voir les situations.
Pourquoi avoir profité de ça pour vous lancer dans l'écriture ?
J'écrivais déjà avant. J'écrivais beaucoup de chansons. Mm-hmm. J'avais écrit
pour les interpréter vous-même ?
Ouais, avec un groupe que j'avais lancé et que je menais. Et
c'était quoi, de la pop, du rap ?
Il y avait du rap, ouais. Il y avait du rap et c'était mêlé avec de la chanson française et de la folk. Et on essayait de donner une cohérence musicale à trois genres qui se tapent un peu dessus quand même. Mm-hmm. Et on essayait de faire ça. On a réussi pendant un bon moment et puis après ça s'est arrêté. Mais j'écrivais beaucoup déjà, donc des chansons. J'ai écrit énormément de nouvelles de mes 20 à 30 ans et à 20 ans j'avais écrit un premier roman. Mais que j'ai complètement perdu parce que mon ordi a planté et qu'à l'époque j'étais nul en informatique et que
ça parlait de quoi ?
Ça s'appelait Mémoire avec la mort et c'était l'histoire d'un jeune boulanger qui recevait la visite d'une petite bonne femme super sympa qui s'avérait être la mort en fait. Et l'idée c'était qu'au fur et à mesure du bouquin on comprenait qu'en fait c'était un vieil homme et qui revivait sa vie en une seconde. Et voilà, ça parlait de ça et puis j'avais écrit 80 pages et perdu.
Quels sont les livres qui vous ont marqué, Paul Besson ? Est-ce que vous êtes un gros lecteur ou...
Ouais. Ouais, je lis beaucoup.
Parce que fils d'écrivain ou pas forcément ?
Ouais, non, parce que j'adore ça. Ça m'apprend des choses, ça me fait des émotions artistiques, comme tout le monde en fait. Mais ouais, j'adore ça. Quels sont les livres qui m'ont marqué ? Je dirais plutôt des auteurs qui m'ont marqué, parce que j'ai du
mal
à...
Par exemple, ouais.
Le premier auteur qui m'a vraiment fait un choc littéraire, ça a été Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Après, Bukowski aussi, énormément, que j'ai découvert à 20 ans. Puis ça résonnait bien avec ce que je vivais, quoi, la litanie d'alcool et de...
Comment vous avez découvert, par exemple, Bukowski ? Est-ce que c'est par John Fante ? Est-ce que c'est par votre père ? Est-ce que c'est par un autre biais ?
C'est un peu tout seul, je crois. Ah non, c'est peut-être grâce à mon père qui m'avait prêté un DVD d'un documentaire de lui, je crois, en me disant ça va te plaire. Et ça m'avait beaucoup plu. Et après, j'avais tout lu de Bukowski. Il y a qui d'autre ? Il y a Michel Houellebecq, que je trouve... ça, c'est un peu impensif, tout le monde l'adore, j'imagine.
Mais à un certain moment, je me suis dit que vous êtes peut-être le jeune Michel Houellebecq, mais de gauche, quoi.
Un peu plus sympa, peut-être.
Ouais.
Non, mais.
Ça. Je vous confirme. Ouais. Je peux lire comment se termine votre premier roman, Paris, Saint-Denis.
Ouais, allez-y. Ouais.
L'épilogue. Je suis sorti de la gare un soir d'hiver glacial. De grosses femmes noires se pressaient dans leurs boubous. Une pluie fine et froide tombait sur la ville. Les grilles de barbecue que les vendeurs de brochettes protégeaient de leurs parapluies faisaient de la fumée sur toute la place. J'en ai acheté une pour 1 euro. Le vendeur m'a demandé si je voulais du piment et de l'oignon cru. Je voulais du piment et de l'oignon cru. J'ai mordu dans ma brochette. Elle était grasse, fondante et salée, délicieuse. Je l'ai mangée en attendant le tram, dans la pluie et le vent, un grand sourire aux lèvres. Optimiste donc, hein ?
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
J'espère que maintenant que votre premier roman Paris Saint-Denis est paru, édité chez Lattès, Paul Besson, vous allez continuer à écrire. Surtout n'arrêtez pas.
Ça marche.
Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges ? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les Sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré. Coédité par France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Le péronisme est de retour au pouvoir en Argentine. Le candidat de centre-gauche, Alberto Fernandez, remporte largement la présidentielle. Reportage à Buenos Aires dans un instant. Dans cette édition, nous entendrons aussi la réaction d'un représentant des victimes des attentats du 13 novembre. Réaction après la mort d'Aboubakar al-Baghdadi. Le chef du groupe État islamique a, selon les États-Unis, été tué hier en Syrie. Et puis nous irons en Allemagne où l'extrême droite remporte une nouvelle élection régionale dans l'est du pays. Encore une, nous dira notre correspondant outre-Rhin. Changement de nom et de parti à la tête de l'Argentine. Le candidat péroniste de centre-gauche, Alberto Fernandez, remporte la présidentielle et il ne lui aura fallu pour cela qu'un seul tour. Avec sa colistière, l'ancienne présidente Cristina Kirchner, il devance le président sortant Mauricio Macri. Il comptabilise ce matin plus de 47% des voix. Alberto Fernandez, nouveau président de l'Argentine donc, et de ses 44 millions d'habitants. Ils étaient nombreux hier soir à crier leur joie, notamment au micro de Caroline Vic.
Au QG des péronistes, le nouveau président élu, Alberto Fernandez, remercie les Argentins avec émotion et passion. Dans la foule, Ezequiel, 31 ans, qui a retrouvé le sourire après 4 ans difficiles.
C'est du bonheur absolu que ce soit terminé le pire cauchemar qu'a connu l'Argentine depuis les 40 dernières années. Parce que Macri a détruit le pays et sous-estimé le peuple. Et on le voit aujourd'hui, les gens marchaient tristes dans la rue. Et ce soir, c'est une fête et ce n'est que le début.
Plus loin, Alejandra, 51 ans, lève les deux doigts du V de la victoire, symbole du péronisme, pour saluer les voitures qui klaxonnent.
Nous devions laisser derrière nous ces 4 ans néfastes, où beaucoup de gens sont passés sous le seuil de pauvreté, où les enfants ne mangent pas à leur faim. On sait que ça va être dur de remonter la pente, mais on fait confiance à Alberto. Il va réussir.
Alberto Fernandez qui se réunira avec Mauricio Macri aujourd'hui afin d'organiser ensemble la transition politique et tenter de tranquilliser les marchés pour garantir une stabilité économique jusqu'au 10 décembre prochain, date de la passation de pouvoir.
Caroline Vic depuis Buenos Aires pour France Culture. Retour par ailleurs sur cette présidentielle en Argentine avec Julie Gacon et son invité dans les enjeux internationaux. C'est dans moins d'un quart d'heure. D'ici là, nous poursuivons ce journal et au lendemain de l'annonce de la mort du chef du groupe État islamique, l'OTAN salue une étape importante dans la lutte contre le terrorisme international. Aboubakar al-Baghdadi a été tué en Syrie. Le président américain Donald Trump s'en félicitait hier. Nous avons joint le vice-président de l'association Life for Paris, association de victimes des attentats du 13 novembre. Olivier Laplot réagit entre soulagement et retenue.
C'est une forme de soulagement hein, quand on parle de quelqu'un qui est à l'origine de nombreuses atrocités, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit un peu partout dans cette région et puis chez nous en Europe via un certain nombre d'attentats. Évidemment, c'est toujours une information à prendre un peu avec des pincettes. Hein. C'est quelqu'un qui est mort et ressuscité plusieurs fois ces dernières années, d'une certaine façon, de la même façon que Oussama Ben Laden était mort et ressuscité plusieurs fois. Voilà, donc c'est une information à prendre un peu avec des pincettes, d'après moi. Voilà, mais qui semble donc être confirmée aujourd'hui. Malheureusement, ça ne veut pas pour autant dire que Daesh est fini et qui sait ce qu'on peut être amené à craindre à l'avenir avec l'instabilité de la région du nord de la Syrie et d'éventuelles résurgences de Daesh.
C'était Olivier Laplot, vice-président de l'association Life for Paris, interrogé par Caroline Félix. Et effectivement, notons que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, demande déjà à ses services la plus grande attention, notamment pendant les événements publics à venir en France. Une vigilance accrue face à de possibles actes de vengeance. C'était la première élection en Italie depuis que Matteo Salvini a quitté le pouvoir et il l'a très largement remporté hier. Les quelques 700 000 électeurs de la région Ombrie, au nord de Rome, ont mis fin à 50 ans de règne de la gauche dans cette région. Ils ont plébiscité le parti de l'ancien ministre de l'Intérieur, chef de la Ligue d'extrême droite. L'extrême droite qui emporte également un scrutin en Allemagne lors d'une élection là aussi régionale. Les résultats se suivent et se ressemblent. En Allemagne de l'Est, l'ancienne RDA. Au centre du pays, dans la région du Thuringe, le parti AfD a recueilli hier près de 24% des suffrages, convainquant donc un électeur sur quatre. L'AfD y devient la deuxième force politique, Ludovic Piétenu.
Avec un candidat Björnecke au discours radical, populiste et provocateur, fasciné par le Troisième Reich, proche des islamophobes de Pegida, soutenu par la scène néo-nazie locale, le parti alternatif pour l'Allemagne signe un nouveau résultat record. Il gagne 13 points en 5 ans, la CDU d'Angela Merkel en perd presque 11. L'AfD devient la première force d'opposition, avec 22 des 88 sièges de cette assemblée régionale. Dans cette région rurale, la seule des 16 régions d'Allemagne qui reste dirigée par la gauche, Die Linke, en tête à près de 30%, mais qui devra, si elle ne veut pas être minoritaire, former une coalition avec un allié supplémentaire, sans doute les libéraux, en plus des sociodémocrates et des verts, avec qui elle gouvernait déjà. Scrutin après scrutin, les partis de gouvernement s'effondrent, l'AfD progresse, les voix s'éparpillent, et il faut désormais aux partis politiques constituer des coalitions acrobatiques à 3 ou 4 pour gouverner, s'ils veulent maintenir la digue dressée face à l'extrême droite.
C'était Ludovic Piétenu depuis Berlin. L'état d'urgence a été levé cette nuit dans toutes les régions du Chili, où il avait été instauré un peu plus tôt. La présidence chilienne l'annonçait hier soir après des manifestations inédites depuis des décennies dans le pays. Cette révolte sociale dure depuis 10 jours et a déjà conduit un remaniement du gouvernement. Révolte sociale aussi au Liban depuis 12 jours maintenant. La mobilisation y a débuté après l'annonce d'une nouvelle taxe sur la messagerie gratuite WhatsApp. Les Libanais réclament la chute du gouvernement plus largement. Et hier, ils étaient encore dans les rues, Chloé Domain.
La colère des Libanais ne faiblit pas. Partout dans le pays, des manifestants de tous les âges, venus en famille ou entre amis, dénoncent la corruption et le clientélisme de la classe politique. Les promesses de réforme du Premier ministre et du Président de la République n'ont pas convaincu. Les menaces de Hassan Nasrallah, le chef du puissant parti chiite Hezbollah et de ses militants, non plus. Hier, la mobilisation était de nouveau très importante. Un geste symbolique a marqué cette journée. Les manifestants ont formé une chaîne de solidarité sur 165 km du nord au sud du pays. Dans une ambiance festive et sous un soleil tapant, ils étaient des dizaines de milliers de toutes les régions, chrétiens, musulmans chiites et sunnites, main dans la main contre le régime. Ce matin, les principaux axes routiers bloqués pendant plus d'une semaine par des barrages sont rouverts, mais à chaque barricade, le bras de fer entre les manifestants et l'armée se poursuit. Banques, écoles et universités restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Beaucoup de magasins gardent le rideau baissé. Sur les réseaux sociaux, les appels à poursuivre la mobilisation se multiplient.
C'était Chloé Doma pour France Culture. Les représentants du Conseil français du culte musulman seront reçus ce matin par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a déjà prévu de leur parler du port du voile et de la laïcité. Avant ce rendez-vous à l'Élysée, Dalil Boubaker, président de la Grande Mosquée de Paris, estime, lui, que ce n'est pas le terrorisme et le foulard dont il faut parler. Arrêtons la stigmatisation, voilà ce qu'il déclarait hier soir avant son rendez-vous à l'Élysée. 8 Afghans, dont 4 mineurs, ont été retrouvés hier matin en légère hypothermie dans un camion frigorifique à Calais. Le véhicule faisait route vers le Royaume-Uni. Mercredi dernier, 39 personnes, là aussi des migrants d'origine chinoise cette fois, avaient été retrouvées mortes dans un engin du même type, un camion près de Londres. Les autopsies, là, sont toujours en cours. Et puis notez que la SNCF promet le remboursement de tous les billets concernés. Dans l'Ouest, ce lundi, le trafic ferroviaire sera grandement perturbé par une grève. Grève qui dure depuis une semaine maintenant, mais qui aura un impact non négligeable aujourd'hui lundi. Un TGV sur 3 seulement vont circuler sur l'axe Atlantique. C'est une grève des agents de maintenance dans la banlieue parisienne. Sudrail, qui appelle à cette grève, évoque une remise en cause des conditions de travail par la direction sans avoir concerté les syndicats avant ces remises en cause. Le ciel s'annonce nuageux ce lundi sur le tiers nord du sud de la France. Ailleurs, ce sera gris et humide. Météo France annonce pour aujourd'hui 9 degrés à Brest et à Besançon, 10 degrés à Lille, à Paris et à Strasbourg, 15 degrés à Lyon. Comptez 16 degrés dans la matinée à Bordeaux, 18 à Bayonne et sur la Corse, entre 11 et 21 degrés cet après-midi avec des pluies toujours qui vont balayer le pays du nord-ouest jusqu'au sud-est de la matinée jusqu'à ce soir. Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal. Ravi de vous retrouver.
Moi aussi. Pour gentil. Votre journal des idées, comme tous les matins, Jacques. Et ce matin, nous l'avons évoqué dans le journal de l'actualité, mais vous l'évoquez dans votre journal des idées, l'élimination du calife autoproclamé du groupe État islamique, Aboubakar al-Baghdadi. Cette mort signifie-t-elle la disparition, Jacques, de ces réseaux terroristes ?
Eh bien, Courrier International publie une revue de la presse israélienne qui en doute fortement. Les observateurs attentifs et directement concernés que sont les Israéliens se réjouissent du coup porté à l'organisation, tout en relevant, comme Amos Harel du quotidien Haaretz, que cette victoire est symboliquement importante pour Trump face au torrent de critiques quelques semaines après avoir abandonné les Kurdes, permis l'invasion turque au nord de la Syrie et déclenché une réaction en chaîne risquant de déboucher sur l'évasion de milliers de prisonniers de l'État islamique. Son confrère de Yedot Ahronot, Ron Ben Ishai, souligne par ailleurs que l'opération de commando a été menée au cœur d'une région, la région d'Idlib, tenue par des djihadistes sunnites, et que celle-ci n'est qu'à quelques encablures des bases russes de l'attaquier Maïmin, ce qui constitue un splendide pied de nez aux Russes. Mais Zvi Yezelkeli, dans Ma'ariv, redoute que la situation ne profite à l'Iran et à ses alliés chiites, tout en rappelant que pour une majorité d'Arabes du Moyen-Orient, s'agissant de la Syrie, la source de tous les maux reste le régime Assad, responsable de la mort de près d'un million de personnes, là où l'État islamique n'a tué que, entre guillemets, 100 000 personnes. Le revanchisme sunnite est un vivier inépuisable. Ce sont d'ailleurs des djihadistes proches de Daesh que l'armée turque emploie comme supplétifs dans ses opérations contre les Kurdes. Dans Le Point, Jérémy André évoque notamment le groupe Harar al-Sharqiya, responsable entre autres de l'assassinat sauvage d'Evrin Kalaf, jeune femme politique kurde qui venait de constituer une formation indépendante du PID, le parti frère du PKK. Or, Harar al-Sharqiya a été fondé par un chef religieux de l'État islamique en Irak et regroupe d'anciens du front al-Nosra et de Daesh. Selon une enquête du quotidien britannique The Telegraph, le groupe a récupéré certaines des femmes de Daesh jusque-là détenues dans le camp d'Aïn Issa, notamment des Françaises, qui restent introuvables. L'hebdomadaire consacre un dossier à Erdogan l'éradicateur, nettoyage ethnique, exécution sommaire, bombardement des populations civiles, pillages. La Turquie est même soupçonnée d'utiliser contre les Kurdes en Syrie des armes chimiques, notamment des bombes au phosphore blanc, un agent incendiaire qui expliquerait l'état de certaines victimes à la peau calcinée, noircie, du crâne aux orteils. Le dossier du Point s'intéresse aussi à l'entrisme d'Erdogan en France, dont les réseaux développent un activisme intense, notamment en Alsace, où réside une importante communauté turque. Et pour ratisser large cette nébuleuse d'associations et de structures religieuses qui diffusent la bonne parole en matière de géopolitique, ajoute aujourd'hui aux thèmes de mobilisation classiques comme la négation du génocide arménien ou les accusations contre les Kurdes autonomistes du PKK, la dénonciation de la politique israélienne ou celle de l'islamophobie en France. Pardon. Le site En attendant Nado publie une éclairante recension par Jean-Paul Chansex du livre de Ségolène Débar, géographe spécialiste de la Turquie, et Guy Petek, qui a travaillé dans plusieurs structures d'aide aux immigrés turcs, l'histoire des Turcs en France aux éditions du Détour. Suite à l'accroissement de la population et l'inégalité foncière abyssale, les paysans turcs émigrent en masse vers les grandes villes, une première étape vers l'émigration à l'étranger. Celle-ci devient une politique assumée comme projet national, avec deux destinations principales, l'Allemagne et la France. Très vite, les localités d'origine se reconstituent, donnant l'impression d'entités homogènes qui recoupent des identités religieuses, alévis ou sunnites, ou culturelles, turques, kurdes. Puis, le regroupement familial dès 1976 amène des épouses qui éprouvent des appréhensions face à un monde qu'elles ne connaissent pas, un mari qui leur a été souvent imposé et une vie de couple qui n'existe pas dans la tradition. Si elles sont heureuses d'être maîtresses de maison, elles souffrent de solitude et parlent au mur. Elles ne fréquentent guère les cours de français, ce qui ne favorise pas l'intégration, mais au contraire le refuge dans l'entre-soi, puis dans les mosquées, les réseaux islamiques au cours des années 1980.
90. La loi de 1981 permet aux étrangers de créer des associations. C'est ainsi qu'apparaissent des amicales de travailleurs qui seront progressivement récupérées par la sphère d'influence de l'État turc. Très vite, l'objectif visé est explicitement d'enrayer l'acculturation occidentale. Sur le plan politique, le résultat est un score largement supérieur pour le parti du président aux élections. Lors du référendum constitutionnel qui lui donne tous les pouvoirs, le consulat de Lyon atteint 86%, chiffre inégalé en Turquie. Cela n'est pas sans créer des réactions, car des voix se lèvent pour interdire le vote de la diaspora qui vit à l'aise, je cite, vit à l'aise dans les démocraties occidentales. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, le retour des péronistes en Argentine.
Oui, il s'appelle Alberto Fernandez et c'est le nouveau président des 44 millions d'Argentins. Le candidat de centre-gauche a obtenu plus de 47% des suffrages, ce qui lui vaut d'être élu dès le premier tour. Il prend la tête d'un pays très fragilisé, un pays en récession depuis plus d'un an avec une inflation de plus de 37% qui rend très rude la vie au quotidien. Un Argentin sur trois est considéré comme pauvre et cela touche près de la moitié des enfants. Alberto Fernandez en a conscience, qui a, dès l'annonce de son élection, admis que les temps à venir ne seraient pas faciles. Quant aux investisseurs dont l'Argentine a tant recherché les faveurs ces derniers temps et qui rechignent de plus en plus à lui prêter de l'argent pour qu'elle rembourse ses dettes, ils sont d'ores et déjà inquiets de ce retour du péronisme, longtemps synonyme d'interventionnisme de l'État. Bonjour Olivier Dabenne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à Sciences Po, président de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors le péronisme d'Alberto Fernandez est-il le péronisme des époux Kirchner? Est-ce que c'est parce qu'il est péroniste et que Cristina Kirchner était sa colistière qu'Alberto Fernandez va mener une politique économique et sociale de gauche?
Oui, non, effectivement, vous avez raison de souligner. Ce péronisme est un petit peu différent. Ne serait-ce que parce que c'est un péronisme unifié, ce qui n'était pas le cas ces dernières années, c'est-à-dire pendant la campagne, les différentes composantes du péronisme se sont ralliées à la candidature de Fernandez. La coalition comprend pratiquement une vingtaine de partis politiques, ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est un péronisme qui est effectivement beaucoup plus modéré, mais il est à souligner que le péronisme était aussi présent chez l'adversaire, puisque la candidature à la vice-présidence était assurée par un péronisme aussi. Donc le péronisme était partout dans cette élection, mais il sort vainqueur avec cette victoire de Fernandez.
Le péronisme, c'est donc un mouvement à plusieurs visages. C'est ce mouvement créé dans les années 40 autour de la figure de Juan Perón. Carlos Menem, dans les années 90, était un président péroniste, mais qui a mené une politique de droite.
Oui, c'est exact. Ce qui montre bien que le péronisme est en fait compatible avec plusieurs projets politiques, plusieurs idéologies même, puisqu'il a été tour à tour, comme vous venez de le dire, centre-gauche, droite néolibérale, gauche plutôt radicale même ces dernières années. Et on voit maintenant apparaître un projet qui est plutôt modéré, je dirais, principalement en raison de cette dynamique d'alliance au sein de Frente de Todos, où on retrouve des différentes composantes historiques du péronisme.
Alors il y a le programme modéré, dites-vous, mais avec quand même une volonté de justice sociale, de dire que Alberto Fernandez a promis d'éradiquer la pauvreté, de travailler spécifiquement sur la pauvreté, aussi avec les classes moyennes. Est-ce qu'il a, de toute façon, quoi qu'il en soit, la même marge de manœuvre budgétaire qu'au début des années 2000, quand Néstor Kirchner a pris la présidence, pour une politique sociale généreuse?
Non, effectivement, la situation économique est catastrophique. Personne ne s'attendait d'ailleurs à ce que cette situation soit aussi mauvaise à l'issue de ce mandat. Et donc les marges de manœuvre vont être très 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 limitées. Il est contraint par un accord avec le Fonds monétaire international que vous avez cité. Et par conséquent, il a annoncé un projet de gouvernement qui est très axé sur les questions sociales, étant donné les progrès de la pauvreté, voire même de la faim chez les enfants. Donc oui, mais il va y avoir beaucoup de difficultés. Il n'a pas donné beaucoup de précisions concernant la façon de financer ces projets sociaux, mais ça va être le grand enjeu de sa présidence.
Et notamment parce qu'il ne peut plus compter, comme au début des années 2000, sur les cours des matières premières pour financer sa politique sociale.
Oui, non, c'est ça. L'économie argentine reste très dépendante des cours mondiaux des principaux produits. Son industrie est peu compétitive et par conséquent, l'Argentine est toujours à la merci d'un retournement de conjoncture internationale et qui provoque un désastre économique.
Alors Olivier Daben, vous le disiez, en 2018, Mauricio Macri a sollicité l'aide du Fonds monétaire international qu'il a obtenu. Le FMI lui a même accordé le plus gros prêt de son histoire, 57 milliards de dollars. Est-ce qu'Alberto Fernandez, de centre-gauche, a l'intention d'honorer les premiers remboursements prévus pour 2021 ou est-ce qu'il a d'ores et déjà fait savoir qu'il serait dans un rapport de force avec l'institution internationale ?
Non, je pense qu'il aura à cœur d'honorer les engagements du pays, mais il aura aussi à cœur, je pense, de renégocier une partie de la conditionnalité. Hein. Les prêts du FMI viennent toujours avec des conditions concernant la façon de lutter contre les déficits publics. L'Argentine reste un pays qui est assez protectionniste, malgré le démantèlement de beaucoup de dispositifs de subvention de la part du président Macri. Donc, je pense qu'il pourra renégocier les conditions dans lesquelles il va falloir rembourser. Mais ça s'annonce compliqué, d'autant plus que les premières indications qu'on a concernant les élections législatives montrent qu'il n'aura pas la majorité au Congrès, ce qui est quand même un signe de faiblesse.
Alors, le problème, c'était notre invitée Anne-Laure Delatte récemment dans une émission sur le FMI nous disait que le problème en Argentine est que la dette extérieure est essentiellement, comment dit-on, dénominée en pesos, ce qui veut dire que quand il perd de sa valeur, l'Argentine doit dégager encore plus de revenus pour rembourser ses créanciers. C'est le problème des pays émergents qui empruntent en dollars parce que les investisseurs leur prêtent dans une monnaie en laquelle ils ont confiance. Or, on a vu aujourd'hui, Alberto Fernandez, à son élection, a dit que les Argentins, soient tranquilles, on va respecter vos dépôts. Le spectre du Corralito, qui était ce nom officieux des mesures prises en 2001 en Argentine, il est toujours là. Il y a toujours ce spectre de 2001. Et lui, Fernandez, a conscience de ça. Qu'est-ce qu'il veut faire de différent pour éviter cet écueil de 2001?
Je pense qu'il a tout d'abord tâché d'instaurer un climat de confiance qui est la clé, je dirais, pour éviter que les Argentins investissent massivement en dollars, s'endettent en dollars et alimentent des dépôts à l'étranger. Donc il va essayer de rétablir un climat de confiance et de retournement de la conjoncture. Il faudrait que les indicateurs, notamment sur le plan de l'inflation, donnent rapidement des bonnes nouvelles pour qu'ils puissent de cette façon travailler dans le calme et la sérénité. Mais ça va vraiment pas être facile.
Olivier Daben, en 2015, il semblerait que ce sont les classes moyennes qui ont massivement voté pour Mauricio Macri. Est-ce qu'elles ont bénéficié de son mandat? De quelle manière sont-elles, ces classes moyennes, dont on parle tant dans les pays d'Amérique latine aujourd'hui, touchées par des mobilisations, je n'ose pas dire sans précédent, mais en tout cas des mobilisations intenses, que ce soit au Chili, que ce soit en Équateur deux semaines auparavant, que ce soit en Bolivie où les résultats de la présidentielle sont contestés. La classe moyenne a toujours un rôle. Qu'est-elle devenue en Argentine aujourd'hui ?
L'Argentine est, de ce point de vue, quand même un petit peu une exception avec l'Uruguay. Ce sont deux pays où il y a traditionnellement une classe moyenne qui est très importante. Et par conséquent, quand on voit un niveau de pauvreté qui atteint 30% en Argentine aujourd'hui, c'est très anormal et très choquant pour la plupart des Argentins qui ne sont pas habitués à ces écarts sociaux, à cette inégalité. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est bien de faire en sorte que l'Argentine revienne à une situation antérieure où il y a très peu de pauvres et où la classe moyenne est abondante. Donc ça va pas être facile, mais c'est vrai que le retournement de la conjoncture économique, les politiques qui ont été mises en œuvre, politiques assez libérales qui ont été mises en œuvre par le président Macri, ont généré cette augmentation brutale de la pauvreté ces dernières années et qui explique assez largement ce résultat aujourd'hui.
Olivier Daben, pour redire un mot de la trajectoire politique et économique de l'Argentine, les années 90 sont celles des privatisations et des coupes budgétaires qui entraînent en 2003 un virage à gauche, virage qui durera 12 ans, 12 années de kirchnerisme, d'abord avec Néstor Kirchner, puis à sa mort en 2007, Cristina Kirchner, sa femme. En 2015, les Argentins élisent un libéral, Mauricio Macri, et à nouveau hier, revirage à gauche. Donc une succession de gouvernements de gauche comme de droite, certains très étatistes, d'autres plus libéraux. Personne n'a su pour l'instant mettre les comptes de l'Argentine et redresser l'Argentine socialement, économiquement. Alors, est-ce qu'il y a un problème de fond, un problème structurel ?
Oui, il y a un problème structurel concernant le modèle économique, c'est que véritablement personne n'a voulu modifier en profondeur. Donc c'est un modèle qui fait que le pays reste très très vulnérable à des retournements de conjoncture. La gauche a pu bénéficier d'une conjoncture exceptionnellement bonne pendant une douzaine d'années. Aujourd'hui, l'Argentine est revenue à des politiques par secousse, hein, ou des alternances fréquentes en fonction de la situation économique. Ça va pas être très facile pour Alberto Fernandez aujourd'hui, parce que justement cette conjoncture internationale ne va pas lui être favorable. Sa victoire, par ailleurs, n'est pas aussi spectaculaire qu'on l'imaginait dès le mois d'août à l'issue des primaires. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il a aussi perdu l'élection législative, donc ça va pas être un président totalement libre de ses mouvements et en position de force.
Et pour conclure en quelques mots, Olivier Dabenne, comment cette victoire de la gauche en Argentine peut rebattre les cartes régionales, revoir la carte des alliances politiques, notamment avec le Venezuela de Nicolas Maduro, la Bolivie d'Evo Morales?
Oui, bien sûr, et surtout le Brésil, parce que il y a dans le programme politique du candidat Fernandez un appel au pied du pays voisin, et rien ne peut se faire sans une bonne entente entre l'Argentine et le Brésil, c'est important. Mais c'est vrai que par ailleurs, c'est une élection qui renforce la résilience de la gauche que l'on note un petit peu partout dans le continent et qui limite la portée du virage conservateur qu'on a beaucoup annoncé depuis quelques années.
Voilà, et qui changera aussi les relations de l'Argentine avec les États-Unis. Mauricio Macri était très proche de Donald Trump. Merci beaucoup Olivier Dabenne d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Les Utopiales, festival international de science-fiction de Nantes. À travers la littérature, les sciences, la bande dessinée, le cinéma, les arts plastiques ou les jeux, comment la science-fiction entend-elle décoder notre réalité? Cette 20e édition se penche sur la question du code et propose de déchiffrer les structures cachées de la société, du langage, de l'information et de la création. Les Utopiales, du 31 octobre au 3 novembre, à retrouver ce vendredi dès midi dans les émissions de France Culture, en direct et en public de la Cité des Congrès de Nantes. Un partenariat France Culture. Chaque soir sur France Culture à 22h15, Matière à penser, cette semaine en compagnie de l'historien Patrick Boucheron.
L'histoire peut-elle donner matière à penser? Oui, sans doute, mais pourvu qu'elle se montre accueillante à tout ce qui la déborde.
Elle continue d'habiter notre imaginaire collectif. Appelle-t-elle à un travail de mémoire? Quel rôle ont-elles joué et jouent-elles encore? Histoire des colonies dans Matière à penser. Un pas de côté, historiens, philosophes, écrivains refont l'histoire coloniale. De lundi à vendredi à 22h15 et sur franceculture.fr.
Eh bien, nul besoin de préciser que vous écoutez bien France Culture et il est 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
On termine sur son nom dans les enjeux internationaux. On commence votre humeur du jour, toujours avec son nom. Le président américain Donald Trump a annoncé la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi.
Oui, mais il faudrait rester prudent, hein, prudent parce qu'on n'est pas à l'abri de se ridiculiser à nouveau. Comme avec Xavier Dupont de Ligonnès, imaginez si ce n'était pas Baghdadi, mais un sympathique retraité de la région de Bassora, quelqu'un dont les digitale présentait des similarités avec celle de Monsieur Baghdadi. Alors on va rester prudent. D'ailleurs, Donald Trump ne l'a pas été. Il a été même tellement clivant que même en étant contre Baghdadi, il a réussi à susciter des critiques en expliquant par exemple que Baghdadi était, je le cite, mort comme un chien, suscitant de nombreuses remarques de la part des amoureux des animaux, certains n'hésitant pas à qualifier le président américain de pérophobe. Il faut être prudent, par ailleurs, Julie, sur la mort de Baghdadi, parce que les dirigeants autoritaires sont de plus en plus susceptibles, vous savez, comme Monsieur Erdogan, qui vient de faire un procès en diffamation, qui a menacé Le Point de procès en diffamation, parce que le magazine Le Point l'avait traité, je cite, d'éradicateur, salissant sciemment l'œuvre humanitaire de Monsieur Erdogan vis-à-vis des Kurdes. Le service public audiovisuel ayant des moyens mesurés, on m'a demandé d'éviter tout procès avec la famille Baghdadi et donc de délivrer une information, comment dirais-je, neutre à ce sujet. C'est pour ce quoi je pourrais dire que Monsieur Baghdadi est par exemple un petit ange parti trop tôt. Il a certainement fait de belles choses, hein, par exemple. Alors là, c'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas, Monsieur Baghdadi a rendu service à ceux qui aiment à la fois Game of Thrones et Mad Max. Avant lui et Daesh, il y avait d'un côté Game of Thrones et de l'autre Mad Max. Et maintenant, on a enfin une synthèse probante. Mais surtout, il ne faut pas dire du mal de Monsieur Baghdadi parce que Maïmonide, se fondant sur la Bible, a bien expliqué que dire du mal des gens était un péché terrible, même si ce que l'on dit est vrai. Dire du mal des gens en hébreu, on appelle ça du lachonara. Et le lachonara, explique toujours Maïmonide, est pire que le meurtre, l'idolâtrie et la débauche réunie, car explique toujours Maïmonide, la médisance est un mal qui se répand sans limite. Voilà pourquoi, comme le dit la Torah d'Israël, il ne faut pas dire du mal de M. Baghdadi, sinon vous risquez de vous retrouver en enfer avec M. Baghdadi.